VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, tout d'abord, toutes nos excuses pour ce retard dû à des raisons indépendantes de notre volonté. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 1er mai 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, la contestation appelle à une marche d'un million de manifestants. Les militaires insistent pour que leur chef dirige le futur conseil conjoint avec les civils.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont durci les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison.
En Guinée, des blessés, des arrestations après des heurts entre partisans du président Alpha Condé et opposants à un éventuel troisième mandat pour lui.
Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido appelle à de nouvelles manifestations de masse. Aujourd'hui, Nicolas Maduro, lui, accuse l'opposition de tenter d'imposer un gouvernement illégitime.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, le principal groupe de la contestation a appelé hier à une marche d'un million de manifestants d'ici à deux jours, après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils, les précisions d'Irénée Manungbo.
Objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition. L'un des chefs de l'association Fer de Lance de la contestation a accusé les militaires de ne pas vouloir céder le pouvoir au peuple. Le conseil militaire maintient que le conseil conjoint souverain devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, a critiqué Mohamed Nadi Al-Assam, dénonçant la tentative des militaires d'accroître leur pouvoir quotidiennement. Les militaires ont annoncé la mort de 6 membres des forces de sécurité, tués selon eux dans des heurts avec les manifestants. L'association des professionnels soudanais les a accusés d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, ce que nient les militaires. L'Alliance pour la liberté et le changement a alors appelé à une marche 2 millions de manifestants pour demain 2 mai 2019 afin d'affirmer sa principale revendication, un pouvoir civil.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a opposé hier une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants qui réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour gérer l'après Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission le 2 avril. La présidentielle prévue le 4 juillet, dont les délais prévus par la Constitution pour élire un successeur à M. Bouteflika, est la solution idéale pour sortir de la crise, a affirmé mardi le général Ahmed Gaïd Salah dans un discours. Les manifestants exigent le départ de l'ensemble des figures du système hérité du président déchu.
En Guinée, des heurts ont eu lieu hier dans deux villes entre partisans du pouvoir et opposants à un troisième mandat du président Alpha Condé. Il y a eu des blessés et des arrestations. Le point avec Morgane Guiriek.
Les tensions entre partisans et opposants d'un troisième mandat du président Condé sont survenues à Kankan, dans l'Est, et à Sangaredi, dans l'Ouest du pays. À Kankan, un fief de M. Condé, des manifestants ont scandé des slogans comme « Non à un troisième mandat pour le président ». Des militants du pouvoir ont tenté de leur barrer la route. Le barrage a éclaté, il y a eu plusieurs blessés et au moins 12 opposants ont été arrêtés. À Sangaredi, les manifestants ont scandé 2020 sans Alpha Condé. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Le président Condé a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Ses opposants, qui le soupçonnent de vouloir modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat, ont créé début avril un front regroupant les partis politiques d'opposition, les syndicats et la société civile. Monsieur Condé, 81 ans, n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution pour pouvoir se représenter en 2020.
Au Congo-Brazzaville, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison, ont été durcies par les autorités. Ses avocats dénoncent une nouvelle violation des droits de l'opposant. Le point avec Ekia Badou.
Je n'ai plus accès au général Mokoko depuis 10 jours, a déclaré maître Yvon-Éric Ibwanga, l'un de ses avocats. Il a affirmé que le régisseur de la maison d'arrêt lui a fait savoir qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie d'interdire toute visite à son client qu'il a définitivement condamné. Maître Ibwanga a ajouté que M. Mokoko est enfermé 24 heures sur 24 et qu'il a vraiment besoin de passer des examens de santé vu les conditions de son enfermement. Âgé de 72 ans, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée, était conseiller du président Denis Sassou Nguesso et s'est présenté contre lui à l'élection présidentielle de 2016. Il a été arrêté en juin 2016 après avoir refusé avec d'autres candidats de reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso. Le général Mokoko a été condamné en mai 2018 à 20 ans de détention criminelle pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État à l'issue d'un procès qu'il a qualifié de règlement de compte politique.
Au Nigeria, 14 hommes partis collecter du bois de chauffe ont été tués par des djihadistes de Boko Haram dans le nord-est, ont affirmé mardi à l'AFP des miliciens et des habitants. Boko Haram a souvent pris pour cible les agriculteurs, coupeurs de bois et éleveurs, les accusant de faire du renseignement pour le compte de l'armée nigériane qui tente difficilement de mettre fin à l'insurrection. Le conflit a fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de déplacés depuis 10 ans dans le nord-est du Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido a appelé à une autre journée de manifestation massive ce mercredi pour forcer Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. Le point avec Michel Joseph.
Juan Guaido a qualifié de fausses hier soir les affirmations de M. Maduro, selon lesquelles ce dernier aurait encore le respect et le soutien de l'armée. Les manifestations contre Maduro sont suivies attentivement à travers le monde et le peuple vénézuélien doit accentuer la pression sur le régime. Pour sa part, Nicolas Maduro est apparu à la télévision pour accuser l'opposition de tenter d'imposer au pays un gouvernement illégitime, appuyé par les États-Unis et la Colombie. Selon lui, le Venezuela est victime de toutes sortes d'agressions. Le président américain Donald Trump a, quant à lui, menacé Cuba, je cite, d'un embargo total et du plus haut niveau de sanctions si la Havane ne mettait pas immédiatement un terme à son soutien militaire et autres au régime de Maduro. Quelques minutes après le tweet de M. Trump, son secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé que Nicolas Maduro était prêt à quitter le Venezuela mardi matin pour la Havane, mais qu'il en a été dissuadé par les Russes. L'administration Trump estime que M. Maduro se maintient au pouvoir à cause du soutien des Russes et des Cubains. À noter que le président Trump et son conseiller en matière de sécurité nationale, John Bolton, ont toujours répondu, en réponse à des questions sur une éventuelle intervention militaire, qu'ils n'écarteraient aucune option.
Ici aux États-Unis, le ministre américain de la Justice, William Barr, doit déposer aujourd'hui devant la commission judiciaire du Sénat, contrôlée par les Républicains après la publication ce mois du rapport de 400 pages du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. On s'attend à des questions sur les dernières révélations du Washington Post, selon lesquelles M. Mueller aurait, dans une lettre et dans un coup de fil à M. Barr, demandé la publication des résumés que ses enquêteurs ont eux-mêmes préparés plutôt que la propre synthèse de 4 pages du ministre. Selon le procureur spécial, M. Barr n'a pas saisi complètement le contexte, la nature et la substance des conclusions de son enquête. Le ministre américain de la Justice avait conclu dans sa synthèse qu'il n'y avait aucune preuve de collusion entre la campagne du candidat de Donald Trump et la Russie et que le président américain n'avait pas entravé la justice.
Toujours à Washington, le président républicain Donald Trump et ses adversaires démocrates se sont mis d'accord sur un programme de dépenses de 2 000 milliards de dollars pour les infrastructures. C'est ce qu'a annoncé hier le leader de l'opposition au Sénat, Chuck Schumer, à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche. Abdourahmane Dia.
Ces investissements porteront sur les routes, les ponts, les ressources énergétiques et l'Internet à haut débit, a précisé Chuck Schumer. Le président Donald Trump présentera les grandes lignes pour financer ce programme ambitieux lors d'une prochaine rencontre dans 3 semaines. Pour que ce projet puisse voir le jour, il faudra toutefois convaincre le Sénat à majorité républicaine de débloquer des fonds. De son côté, la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a loué un plan important et audacieux. Pour améliorer l'accès à la santé et aux infrastructures, nous pouvons travailler avec le président, même si nous avons des difficultés dans d'autres domaines, a-t-elle relevé. Donald Trump et l'opposition démocrate ont donc mis leurs différends entre parenthèses pour soutenir ce programme, un des rares sur lesquels démocrates et républicains semblent parler le même langage.
Deux personnes sont mortes et quatre autres blessées, dont trois grièvement lors d'une fusillade hier après-midi sur le campus de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte, ont indiqué les autorités locales. Selon le responsable de la sécurité de l'université, son équipe est intervenue rapidement pour mettre fin à la fusillade et interpeller le tireur qui était armé d'un pistolet. Cette fusillade intervient trois jours après qu'un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans une synagogue de Californie, tuant une femme et blessant trois personnes. Vous écoutez VOA Afrique.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Nigeria déploie une technologie satellite pour traquer les passeurs de pétrole qui exploitent des canalisations et siphonnent le brut par des tuyaux en caoutchouc dans des barils à bord de petites embarcations. Pour les dénicher, le pays a fait appel au français Kepler qui, 24 heures sur 24, va enregistrer des trajets et des modifications du tiron d'eau des navires. Le vol du pétrole fait perdre au Nigeria un minimum de 100 000 barils par jour, soit 3 à 8 milliards de dollars par an. En Mauritanie, les médecins de la localité de Zouerat ont manifesté hier pour demander l'application du protocole d'accord signé avec le ministère de la Santé. Selon le mensuel Les Mauritanies, les contestataires reprochent à leur ministère de tutelle de ne pas respecter ses engagements, notamment l'augmentation de 50% des salaires du mois d'avril, mais aussi le non-paiement depuis trois mois des indemnités d'éloignement et celles du risque suspendues depuis 2016. Pour terminer, la reprise économique se poursuit en Afrique subsaharienne avec une croissance qui devrait grimper à 3,5% en 2019 contre 3% en 2018 selon les prévisions semestrielles du Fonds monétaire international publiées à Dakar. Ce chiffre global masque toutefois une disparité importante entre deux groupes de pays. Dans les 24 pays dont l'économie repose essentiellement sur les ressources naturelles comme le pétrole et les mines, la croissance devrait rester anémique. L'autre groupe, celui des pays pauvres en ressources naturelles à l'économie plus diversifiée, devrait en revanche continuer d'enregistrer une forte croissance d'environ 6,3% en moyenne en 2019 et 2020, se félicite le FMI.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On commence par la Ligue des Champions et l'Ajax Amsterdam a pris une sérieuse option pour la finale de Ligue des Champions.
Oui, la jeune équipe virevoltante s'est imposée hier soir à Londres 1-0 face à Tottenham lors de la demi-finale aller. Grâce à un but de son milieu de terrain, Donny van de Beek, âgé de 22 ans, à la 15e minute, l'Ajax a largement maîtrisé son sujet pendant toute la première mi-temps. C'est la troisième victoire d'affilée pour l'Ajax à l'extérieur en C1 après le huitième de finale retour contre le Real Madrid 4-1 et le quart de finale retour sur la pelouse de la Juventus 2-1. Le match retour aura lieu le 8 mai à Amsterdam.
Toujours en demi-finale aller de Ligue des Champions, ce mercredi, Barcelone fera face à Liverpool.
Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler une finale avant la lettre. Le FC Barcelone de Lionel Messi, le Liverpool de Mohamed Salah et Sadio Mané s'affrontent ce soir au Camp Nou. C'est un classique européen qui accouchera d'un grand favori pour la finale de Madrid. Cette confrontation entre le Barça et Liverpool est un choc d'habitude du foot européen, une présélection sans pitié entre prétendants au sacre le 1er juin prochain au stade Metropolitano. Cette demi-finale entre ténors n'a pas de favori désigné.
La fédération tunisienne condamnée à indemniser Henri Kasperjak.
Oui, une condamnation de la FIFA pour le limogeage du sélectionneur de 72 ans de son poste en avril 2017. La Tunisie doit verser 554 000 euros à l'entraîneur franco-polonais. La décision date du 16 avril dernier et a été notifiée hier à son avocat maître Didier Lacombe. Kasperjak a été sélectionneur de la Tunisie de 2015 à avril 2017.
Suspension des activités de la Ligue soudanaise de football.
Oui, une décision de la SFA, la Fédération soudanaise de football, pour des raisons, dit-elle, d'ordre sécuritaire. Les manifestations continuent toujours dans les rues de Khartoum près d'un mois après la chute du président Omar el-Béchir et la prise du pouvoir par des militaires. Cette décision intervient aussi après l'agression physique la semaine dernière d'un arbitre par des joueurs et supporters lors d'un match d'El Merrekh, l'un des grands clubs du pays. Et pour terminer, Idrissa, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Second tour des playoffs de la NBA. En conférence Est, Milwaukee a égalisé avec Boston, une victoire partout, en battant les Celtics 123 à 102. En conférence Ouest, Golden State mène 2-0 après avoir battu Houston 115 à 109.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.